La soumission au Seigneur, puis la confiance mutuelle, ça ne doit pas être des concepts dépassés, mais ça doit être des outils qui sont simples et des outils qui sont pratiques dans notre monde tout à fait complexe. Et la Bible dit simplement, comme 1 Pierre 3:7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Honorez-la. » La Bible du Semeur traduit la même chose en disant « Vivez avec votre femme en faisant preuve de discernement. » Montrez de la sagesse dans les rapports avec votre femme. Honorez votre épouse. Marie, la Bible dit en Éphésiens 5, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est un contrat. Et il s'est livré lui-même pour elle. Laissez couler la puissance, l'amour de Dieu à travers vous pour aimer votre femme parce que Christ habite en vous et vous êtes appelé à vous investir dans la vie de votre épouse comme Christ s'est investi entièrement, sacrificiellement dans la vie de son Église. Oh, c'est vrai pour Marie, il y a des sections dans la Bible pour les femmes aussi. Ça dit entre autres, en quelque part, « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. » La femme, elle dit, la Bible dit simplement la notion qu'il y a un lien très direct, très évident entre ma soumission au Seigneur, mon désir de lui plaire, de marcher dans ses sentiers et ma soumission à mon époux, à mon mari. Elle dit pas si votre mari est plus éduqué, ben faites ça. Si votre mari est plus mature spirituellement, mais ça. Elle met pas trop de conditions. Elle dit, femme, soyez soumise à vos maris, que chacune ne soit pas, vos maris. Il n'y a pas deux maris pour une femme. Piou, ça fait trop de travail. Un homme, c'est assez. Femme, que chacune soit soumise à son mari. Même si votre éducation, même si votre sagesse, même si votre maturité spirituelle ou vos diverses compétences sont supérieures à celles de votre mari, Dieu l'a établi chef du foyer. Comme il a établi Christ, chef de l'Église. De grâce, aidez votre mari à accomplir sa responsabilité. Même si vous êtes la belle dans l'histoire et que lui soit la bête, que votre amour fasse ressortir le meilleur de lui. J'ai vu un film qui faisait ça exactement, où la belle a eu le tour de faire sortir le meilleur de la bête. Ça, c'est à la TV qu'il présente. C'est possible. Ginette Renault, une bonne chanteuse, il y a quelques années, là, elle réitère un peu ce principe en chanson. Elle dit, aimez-le si fort qu'il en crie de bonheur. Ne lui donnez que le meilleur. Aimez-le plus fort. Je l'aime, cette chanson-là, moi. Je n'ai jamais chanté à ma femme, par exemple, mais alors, je l'aime beaucoup, cette chanson-là. J'ai besoin d'aide à accomplir mon rôle. J'ai besoin d'être aidé. Le respect et la confiance sont des équipements essentiels à l'édification du couple. Des outils simples, mais essentiels. Oh, l'amour fraternel est important aussi, finalement. Parce que l'amour fraternel, elle apporte la bénédiction du Seigneur sur celui qui la pratique. Psaume 133 dit, « Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là, dans cette situation-là, que l'Éternel envoie la bénédiction, qu'il envoie la vie pour l'éternité. » Dit le psaume 133. L'amour fraternel véritable, la Bible dit, elle ouvre grande la porte aux réponses à nos prières. J'aurais aimé lire 1 Jean chapitre 3, les versets 18 à 23. Mais la Bible a dit dans cette section-là que lorsque nous aimons les frères en action et en vérité, il dit pas juste aimer en parole, mais en action, en vérité, mais quand on le fait, nous avons de l'assurance devant Dieu et nous recevons quoi que ce soit que nous demandons à Dieu. Quand j'aime en pratique, j'ai de l'assurance devant Dieu. Oh, je comprends ça, moi. Quand ça va bien avec ma femme, il me semble que ça va bien avec le Seigneur. me semble que je prie, puis j'ai pas, ma conscience me brûle pas nulle part. Tu sais, le chemin est ouvert. Je sais pas si je suis seul, là. Mais quand c'est tendu avec mon épouse, là, puis que j'ai envie de prier, tu sais, je prie. Mais il me semble, je veux pas être hypocrite. Je veux faire ce que je dois faire. J'aime le Seigneur, j'aime ma femme. Mais là, il y a de la tension. C'est drôle, ça met des bâtons des roues dans ma prière. Ça, c'est moi. Je m'imagine que ça peut se répéter ailleurs. Mais le texte lui dit, si j'aime en pratique, j'ai de l'assurance devant Dieu, puis peu importe ce que je demande, Dieu m'écoute. Hey, ça vaut la peine. L'amour fraternel apporte la bénédiction du Seigneur. 1 Pierre 3,7 pour nos maris, là. Aimez vos femmes, honorez-les. Ça dit, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Elle répète ça aussi pour les maris. Clairement, précisément. L'amour fraternel aussi, elle contribue à l'édification puis à l'épanouissement de chacun. Proverbe nous dit, le juste montre à son ami la bonne voie. L'amour fraternel, ça l'aide à l'édification, à l'épanouissement de l'un l'autre. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Les chrétiens comme le monde souffrent beaucoup trop de pauvreté relationnelle. Malgré toutes les technologies nouvelles de communication, nos croyants comme le monde d'aujourd'hui ont une grande souffrance de pauvreté relationnelle. L'essentiel de leurs relations interpersonnelles se vivent souvent au niveau de l'imaginaire, au niveau du fantasme que présente soit l'Internet, soit la télévision, soit le cinéma. On raconte nos liens interpersonnels dans ce qu'on a vu à TV, dans ce qu'on a vu au cinéma, ou encore des fois, qu'est-ce qu'on vit dans l'Internet. Ça devient la source, souvent majeure, des relations interpersonnelles du monde. Et malheureusement, je dois dire que ça existe beaucoup aussi parmi les croyants. L'amour fraternel produit l'harmonie et produit l'unité du couple. Traiter son conjoint avec respect, avec prévenance, développe cette complicité-là, cette compétence l'un envers l'autre, ensemble, développe la joie de faire équipe, la joie de l'intimité. Et je veux recommander à nos couples de célébrer des victoires, de célébrer des victoires de couple. Quand vous êtes d'accord sur un sujet, ça doit arriver, vous autres aussi. Dites bravo! Amen, gâteau! Célébrez des victoires! C'est correct! On sous-estime la puissance de la célébration d'une victoire. On minimise beaucoup ça. C'est correct d'être un petit peu exubérant dans la réussite d'une réalisation. D'écouter le hockey de temps en temps. Tu sais, il y a une équipe, il y a plusieurs qui jouent ensemble, là, ils se passent ça vite, puis à un moment donné, slung, ça rentre dans le but. Puis là, tout le monde retourne le banc. C'est 1-0. Hein? C'est pas ça que je vois, moi. Il y a de l'exubérance, mon ami, ça saute, Ovechkin, il saute sa bay window, le monde lui saute dessus, c'est la célébration, c'est juste un but. Vous avez des réalisations encore plus formidables chez vous. Dites « yes » de temps en temps dans les choses qui fonctionnent. Célébrez ça. C'est correct. C'est correct. L'amour fraternel va produire l'harmonie, l'unité. Et vous allez pouvoir célébrer des victoires. Mais aussi, finalement, l'amour fraternel est notre plus grande puissance dans l'évangélisation du monde. On va transmettre de ces petits évangiles de Jean-là. Et ce petit évangile dans Jean, chapitre 13, verset 35, dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns envers les autres. » Jésus a dit que la puissance la plus grande de l'évangélisation, c'est pas votre capacité théologique. Oh, zut! C'est votre amour que vous manifestez les uns pour les autres. Ça va radier, puis ça va toucher le cœur des gens. Puis ils vont dire, ce qui est écrit là-dedans, ça l'a touché sa vie, puis sa vie a l'air belle, sa vie a l'air bonne. Moi, je vais avoir qu'est-ce qu'il y a dans sa vie, alors je vais me tourner vers où est-ce que trouver la, où est-ce que trouver la raison de son espérance qui est en lui. Puis il va me demander, donne-moi une apologie, une défense de l'espérance qui est en toi. Puis vous allez le faire avec douceur et respect. Mais c'est l'amour que vous avez les uns vers les autres, et en, certainement dans votre couple. L'amour fraternel, ce n'est pas quelque chose de naturel. L'amour fraternel, comme on a vu dans les Thessaloniciens, vous l'avez appris de Dieu. C'est le fruit de la liberté d'agir du Saint-Esprit dans mon cœur. Demande à Dieu ça. Demande à Dieu qui déverse dans ton cœur l'amour pour que ça déborde autour. Demande ça au Seigneur. Puis après ça, cible un ou deux éléments dans ta vie qui freinent l'amour fraternel. Puis engage-toi à faire tous tes efforts pour joindre à ta foi l'amour fraternel. Tu as, à cause que Dieu habite en toi, la capacité d'aimer Dieu, parce que Dieu est amour. Et que sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Que l'amour fraternel soit non seulement quelque chose qui jaillisse à cause de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, mais que l'amour fraternel soit aussi ce commandement de faire tous nos efforts pour joindre à notre foi cet amour-là, pour notre édification encore, pour la gloire de Dieu. Oh, encore une fois, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que toi, tu as manifesté cet amour pour les frères. Tu t'es incarné. Tu es venu frère. Tu es venu mon frère, mon sauveur. Et tu n'as rien désigné, Seigneur, pour m'offrir ton amitié, ton amour sincère, ton salut. Oh, Seigneur, il y a tellement du travail à faire dans ma propre vie. Tellement de travail à faire dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Le monde a tellement besoin, Seigneur, de voir un amour fraternel, ardent et sincère. Seigneur, donne-nous la grâce de goûter à ton amour, afin, Seigneur, que nos cœurs en débordent et que ceux qui nous entourent croient en toi par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.